Alors, du coup, vous nous expliquez qu'il y a aussi ces différences entre centre-ville et périphérie. Et puis, bien sûr, ces différents quartiers. À l'échelle française, de la France, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ces disparités au niveau des territoires?
Alors, une des premières fractures, quand on s'intéresse à l'échelle des académies uniquement, c'est l'opposition entre les départements d'outre-mer et métropole. Et les différents indicateurs sont rouges, surtout pour la Guyane, qui est encore plus en difficulté que les autres outre-mer, type la Réunion. Donc ici, on a des mécanismes démographiques qui jouent, on a des mécanismes marché du travail, paupérisation, chômage accru, qui se répercutent sur les scolarisations. Et quand on rentre à l'intérieur de la métropole, il y a une opposition entre Académie du Nord, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et aussi Créteil, par exemple, où la réussite est moins au rendez-vous, où il y a plus de retard en troisième, par exemple, par rapport à la Bretagne ou l'Académie de Versailles, qui sont plus souvent en tête des classements pour ce qui est de la réussite et tout un tas d'autres indicateurs. Comme par exemple le retard en troisième au collège.
Alors, malgré tout, malgré ces disparités, quelles sont les évolutions, en fait, que vous pouvez constater au fur et à mesure des années, des décennies, termes de polarisation, justement?
Premier élément de réponse, on n'est pas en mesure de vous répondre précisément avec des mesures ou des études en arrière-plan, parce que les statistiques disponibles sur le plan public, statistiques publiques, ne permettent pas de reconstituer un film d'évolution des écarts, mais juste une photo à un temps donné, étant donné qu'il n'y a pas de série statistique continue. Donc là, on est mis en difficulté par l'appareil statistique, ce que produit l'éducation nationale notamment, où il y a des ruptures dans les séries, il y a des indicateurs qui changent, les définitions évoluent, et donc quand vous voulez suivre des écarts, vous êtes coincé.
Oui, depuis 2005, il y a eu une rupture. Jusqu'en 2005, le ministère publiait aux environs de 70 notes d'information par an sur différents indicateurs et publiait ces notes d'année en année. Depuis 2005, le nombre s'est réduit. En 2009, il n'y a eu que 19 notes d'information et seulement 5 d'entre elles reprenaient des indicateurs antérieurs à 2005. C'est-à-dire qu'on peut nous dire qu'il y a eu changement, mais on n'est pas capable de le mesurer. Et donc là, c'est une difficulté à la fois pour les enseignants, puisque les indicateurs qu'ils ont à retenir ont changé. C'est une difficulté aussi pour les hommes politiques qui n'ont pas finalement les outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif de manière satisfaisante et dans la durée. Ce qui, d'une certaine façon, réduit l'accès démocratique à l'information sur le fonctionnement du système éducatif.
Vous nous avez parlé tout à l'heure de la mixité sociale comme finalement un facteur de progression collective. Mmh. Est-ce que vous pourriez m'en dire un mot ?
Ce sont des collègues sociologues, François Dubé et Marie Durubella, qui ont travaillé sur cette question-là à partir des enquêtes internationales, l'enquête PISA, et ils montrent que dans les pays où l'on favorise la mixité dans les classes, tout le monde progresse, y compris les élèves les plus faibles, mais aussi les élèves qui réussissent le mieux. C'est-à-dire que la présence d'élèves en difficulté n'introduit pas un ralentissement du parcours scolaire des autres. Inversement, dans les pays où on a une politique sélective en matière d'orientation et de constitution des classes, on s'aperçoit que l'homogénéité ralentit la progression de tous et réduit les performances de tous. C'est-à-dire que, en quelque sorte, la diversité, d'après ces études, et elles sont sérieuses, est un gage de meilleure réussite pour l'ensemble des populations.
Quand on a travaillé sur des terrains comme l'Essonne ou même les Alpes du Sud, On a rencontré beaucoup de chefs d'établissement, des principaux de collège, et j'étais frappé parce que beaucoup nous disaient la même chose. Pour nous, en tant que chef d'établissement, je cite, c'est très intéressant d'avoir de la mixité, c'est-à-dire des collèges autour de 400 élèves, avec pas une profession qui va l'emporter sur les autres. C'est-à-dire pas 50% des gamins, par exemple, qui sont issus de milieux cadres, ou à l'inverse, pas 60% des gamins qui sont issus de milieux ouvriers. Et le déséquilibre n'est pas bon dans les collèges publics. C'est ce que nous disaient beaucoup de chefs d'établissement quand on enquêtait sur le terrain.
Alors, je tente une dernière question. On parle beaucoup d'approfondissement, d'accroissement des inégalités sociales qui sont peut-être aussi le fait d'une diminution de la mixité sociale. Quel jugement vous portez aujourd'hui en tant que chercheur sur l'évolution de la société actuelle en matière de mixité sociale et justement d'évolution ?
Un collègue a publié un article qui s'appelle « La ville à trois vitesses », c'est Jacques Donzelot, et on le constate bien, aussi bien dans les formes urbaines que dans les établissements scolaires, mais on pourrait voir ça aussi au niveau des établissements de santé, une division sociale entre les fréquentations, entre les pratiques, qui fait que les espaces sont de plus en plus spécialisés, que les populations sont de plus en plus séparées et vivent dans des conditions de plus en plus difficiles. C'est le cas pour les populations rurales, où on trouve aussi des groupes sociaux très divers dans les populations rurales, certains étant captifs du rural, d'autres ayant les possibilités de mobilité. Dans les villes, on a des populations captives des quartiers les plus défavorisés, avec une mobilité seulement par les transports en commun. Et puis on trouverait ça aussi dans le domaine des loisirs, en fonction des revenus et des positions sociales des uns et des autres.